RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Et aujourd'hui, on va à la rencontre de Marie-Claire Philippot. Et je vais vous dire que c'est un témoignage totalement différent des autres témoignages qu'on a entendus et qu'on va entendre ces prochaines semaines. Parce que Marie-Claire, elle est née en novembre 44. Donc, autant vous dire qu'elle n'a pas énormément de souvenirs de la guerre, même si elle est née évidemment pendant la guerre, mais c'était déjà la libération. Et puis, vous vous rendez bien compte, elle avait seulement quelques mois. Par contre, ce qui est très intéressant avec son témoignage, c'est que elle a énormément souffert de ne pas savoir ce qu'ont vécu ses parents et surtout de ce qu'a vécu son père. Et j'ai presque envie de dire, même si ça peut paraître un peu curieux dit comme ça, que donc au moment où je vous parle, j'ai déjà rencontré 22 témoins différents. Ici, on en est au 7e avec Madame Philippot. Et de tous ces témoins que j'ai rencontrés, c'est probablement celle qui a le plus souffert de la guerre. Vous voyez, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la personne en tout cas que j'ai senti le plus ému, le plus triste, la plus bouleversée encore par la guerre. Et je trouve que c'est justement très intéressant et que ça montre un petit peu le rôle je veux dire qu'on a avec cette émission-ci, avec ce projet, hein, puisqu'on vous rappelle qu'à terme, c'est aussi tous les témoignages vont aussi se retrouver sur le site internet et par écrit, et ça va aussi faire l'objet d'un livre. Et je pense que en faisant ce travail, on aide ces personnes qui n'ont pas su comment ça s'est passé, la guerre. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dedans, parce que voilà, ici, Madame Philippot, elle a souffert de quoi? De ne pas savoir ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est assez troublant, je vais dire. Et évidemment, si vous souhaitez témoigner, vous vous rendez bien compte que vu les conditions sanitaires actuelles, on ne se rend pas au domicile des gens, mais ça n'empêche que vous pouvez continuer à nous contacter et que dès que les restrictions seront levées, on prendra rendez-vous avec vous. Mais donc, vous pouvez continuer à nous contacter pour témoigner. Pour ça, plusieurs moyens. Soit sur notre site internet www.namurenguerre.be, soit par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier à ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Et je vous laisse tout de suite avec le témoignage de Madame Philippot.
Donc mon papa est né le 13 septembre 1906, et déjà gamin, pendant la guerre 14-18, il jouait dans les bois, il ne se doutait pas. Il jouait à la guerre avec des copains et il ne se doutait pas que 21 ans plus tard, il serait mobilisé pour partir à la guerre. Donc papa fut mobilisé à Middelkerk en 1939 et fut embarqué sur une péniche, le Wilhelmus, en Hollande. Les soldats étaient trop nombreux et le pont du bateau s'est effondré et papa était blessé. Et ce sont les Allemands qui l'ont retrouvé sur la berge. Papa était inconscient, donc les Allemands l'ont emmené à l'hôpital de Dordrecht et ils l'ont fait prisonnier et emmené dans les wagons à bestiaux en Allemagne, dans les camps de prisonniers. C'est comme ça que papa était prisonnier de guerre. Il avait vraiment très faim, évidemment. Il recevait une boulette de pain noir pour la journée, très soif aussi. Et quand il pleuvait, il léchait les murs pour avoir quelques gouttes d'eau. C'était comme ça qu'il pouvait un peu boire un peu plus. Et étant blessé, il ne pouvait pas travailler ni à l'usine, ni dans les champs, comme les autres prisonniers. Et alors, les Allemands ont essayé de savoir de quoi était capable papa. Ils ont appris que papa était ingénieur technicien en automobile et qu'il avait travaillé au banc d'essai pour les moteurs automobiles à l'AFN à Liège. On construisait des autos à cette époque-là, en Belgique, Minerva, etc. C'était fabuleux. Enfin bon, donc ça c'était début XXe siècle. Les Allemands lui ont ordonné de donner des cours d'automobile aux jeunes officiers allemands. Bien sûr, papa a enseigné tout faux. Déjà dans l'école, il était déjà comme ça, résistant. Et quand les Allemands s'en sont rendus compte, de rage, ils ont cassé la mandoline de papa, car papa chantait, jouait de la mandoline pour remonter le moral des troupes, des prisonniers comme lui. Et papa ne recevait pas de colis, ni de la famille, ni de la Croix-Rouge, parce que bon, les Allemands étaient vraiment enragés contre lui. Mais les autres prisonniers, malgré le peu qu'ils recevaient via les colis, ils se sont cotisés et sont parvenus à offrir une nouvelle mandoline à papa. Comment ? Ils ont fait parvenir ma mandoline, je n'en sais rien. Papa ne racontait pas beaucoup, maman encore moins. On ne parlait pas beaucoup dans le temps. Hein. Et nous, on nous a un petit peu expliqué ce que je viens de raconter parce que la nuit, quand nous étions enfants, ma sœur et moi, nous avions une chambre à côté de celle de mes parents avec une porte communicante et on entendait papa hurler la nuit, crier, faisait des cauchemars. Mais la première fois que ça arrive, on était effrayés. Et maman est venue dans notre chambre tout de suite à dire « Ne vous inquiétez pas, c'est papa qui fait un cauchemar. Il rêve, il est à la guerre. » Alors le lendemain matin, on a demandé « Qu'est-ce que c'est la guerre ?» Et alors on a eu un peu d'explication par papa, un petit peu, pas beaucoup. Maman n'a jamais su parler de tout ça. Mais ma grand-mère, alors, on l'a un petit peu interrogée quand on était plus grand, parce qu'enfant, on ne se rend pas compte. Et alors, c'était pour revenir que papa avait été libéré grâce au père André de Maretsou, qui était son grand ami. Le père André l'a fait revenir via la Croix-Rouge. Et c'est comme ça qu'il est revenu avec la mandoline, mais cette mandoline, donc, elle est vraiment très très chère à mon cœur, car papa nous chantait et jouait de la mandoline le dimanche matin. On était en pension, ma sœur et moi, on revenait le week-end, et pendant que maman préparait le petit déjeuner, papa jouait de la mandoline et voilà. Pourtant, ça ne nous rappelle pas de bons souvenirs, mais pour nous, il l'a fait. Et ça, c'était vraiment une époque quand même heureuse. Cette mandoline, pourtant, pour moi, elle représente de la souffrance, des sacrifices et du courage. Pour oser chanter dans les camps en Allemagne comme ça, pour les autres, alors qu'il avait faim, soif.
Serena, adoro.
Sa libération, donc papa a dû se faire soigner puisqu'il avait été blessé, il a été opéré au genou sans anesthésie, pas de médicaments pendant la guerre. Et une fois guéri, il est entré dans la résistance, comme je vous ai dit, il a fait sauter les ponts, les trains, Maretsu environ, il se cachait dans les bois parce qu'il était très recherché. Donc papa avait toujours son garage à Mété, il était très très compétent et excellent, et mon grand-père, qui ne le connaissait pas, mais qui avait entendu parler de sa compétence, avait une voiture qui est tombée en panne à la ferme du Tri à Franc-Ouaret. Et mon grand-père avait 5 filles maternelles, voilà. Oui. Ils avaient une ferme à Franc-Ouaret, la ferme du Tri. Et papa est tombé amoureux d'une des filles. Et comme c'était la guerre, les trajets, c'était très difficile, parce que de Mété à Franc-Ouaret, le tram, et à pied, puis voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Vite, pendant la guerre, et que je suis née, se sont mariés le 2 septembre 43, je suis née 18 novembre 44. Et donc, étant dans la résistance, très recherchée par les Allemands, ceux-ci faisaient pression sur maman et ma bonne maman, qui vivait avec maman, donc sa belle-fille, et dans le garage, bon, il y avait des tonneaux d'essence, réquisitionnés par l'armée allemande, qui était au champ d'aviation à Florennes, et maman mettait de l'eau dans l'essence des tonneaux. Donc les voitures des Allemands tombaient en panne, donc ils étaient encore plus enragés. Et alors, pour faire parler maman, donc les Allemands recherchaient papa de plus en plus activement. Ils venaient chez nous à Mété, et mettaient une baïonnette sur moi, bébé dans mon berceau, pour faire parler maman, afin de dénoncer papa, savoir où il était, où il se cachait. Maman, très héroïque, n'a jamais parlé, malgré la terreur, les menaces et l'angoisse totale. Elle a sauvé papa. Moi, j'ai appris tout ça par ma grand-mère, donc ma bonne maman, ça c'est la maman de papa, lorsque j'étais adulte, vu qu'enfant, on n'entendait pas les parents parler, sauf quand papa faisait des cauchemars, et qu'on nous disait qu'il rêvait de la guerre. Et quand papa est revenu des camps de prisonniers, mon grand-père paternel, alors donc le papa de papa, était mort de chagrin. Parce que vu que papa était prisonnier en Allemagne et qu'il n'avait plus de nouvelles, plus de photos, et que papa avait essayé de se sauver et qu'il avait été repris, on se doute bien des traitements qu'il subissait alors. Donc je n'ai jamais connu mon grand-père paternel. Beaucoup, beaucoup d'années plus tard, alors les Allemands ont voulu demander pardon. Ils ont organisé une journée de pardon en Allemagne. Papa et maman étaient invités. Papa y est allé, maman n'a pas voulu. Et maman, je crois qu'elle a eu beaucoup de difficultés à pardonner. Papa a pardonné. Mais je ne sais pas. Moi, quand je regarde la mandoline, je la touche et je sais que papa me demande de prendre soin de sa mandoline, qui représente pour moi courage, héroïsme, respect, amour et dévouement à tous, parce que ce que papa voulait, en entrant dans la résistance et se battre contre les Allemands, c'était pour ses enfants, pour que ses enfants naissent dans un pays libre et puissent parler français. Et voilà, donc merci papa. À toi aussi, maman, courage, courage dans l'ombre, tout à fait dans l'ombre, on n'en a jamais parlé. Et voilà, donc mon papa a fait de la résistance et pour que ses enfants soient libres. Je voudrais pardonner, mais j'y arrive pas. Alors que papa a pardonné. Peut-être que j'y arriverai un jour. Je ne sais pas. Mais j'ai tellement entendu des histoires de désespoir, de chagrin, de séparation. Et je trouve qu'on doit faire un devoir de mémoire parce qu'on ne peut pas oublier ça. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes libres, que même maintenant on parle français et on ne connaît pas le bonheur qu'on a de manger à notre faim, de pouvoir parler librement, de ne pas se cacher, d'avoir peur. Grâce à eux, on ne peut pas oublier ça. Il y a un devoir de mémoire et c'est comme je disais aussi à mon neveu que lui ne se doutait pas de ça. Il connaissait mon papa sous des dehors très joyeux parce qu'il avait beaucoup, beaucoup d'humour. Tout le monde l'adorait, tout le monde l'aimait. Donc je lui ai écrit ça. Et quand je lui ai dit, écoute, je suis contente que tu m'aies posé une question. Comme ça, moi, je peux t'expliquer un petit peu ce que je sais. Je ne suis pas au courant de tout, loin de là. Mais voilà. Et alors, mon neveu a été tellement content. Il a dit, eh bien, je raconterai l'histoire à mes enfants. Ah, je dis, moi, je suis heureuse comme tout parce que j'ai fait un petit devoir de mémoire. Et de transmission, de partage. Pardon, espoir, message de solidarité. Cette mandoline représente une belle et douloureuse leçon de vie. Voilà. Ça me brûle encore, ça me mord encore le cœur en pensant à la faim, à la soif, à son emprisonnement. Tant de jours et tant de nuits d'enfer. Et tous les cauchemars que j'ai entendus, des nuits et des nuits. Alors, pour son courage, son dévouement, sa solidarité, son humour fantastique, mais je voudrais pouvoir pardonner. Enfin, on verra.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi. chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par amour. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien.
Quand ma grand-mère racontait un petit peu, c'est du. C'est tout, c'est du passé. Non, c'est resté là, je crois. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'aurais tant voulu tout savoir, mais quand on posait des questions, premièrement, on était enfant, donc on n'avait pas la notion comme maintenant. On ne réalisait pas ce que c'était. C'est parce qu'on entendait papa crier la nuit et qu'on nous expliquait un petit peu la guerre, mais non, il n'aimait pas parler, non. Maman, non. Papa, il tournait ça encore à l'humour parfois. Et puis, ce qu'il y a eu aussi, c'est que pendant des années et des années, nous allions à la messe à Maretsu voir son grand ami, le père André, qui l'avait fait libérer des camps. Et alors, comme ça, parce qu'on allait voir le père André, on nous expliquait un petit peu qui était le père André. Donc c'était le père chef là, à Maretsu à cette époque-là. Un magnifique personnage, d'un courage aussi, il a fait libérer beaucoup de prisonniers. Et papa était son grand ami. Et voilà, comme on allait souvent voir le père André, on savait qu'eux restaient eux deux. Et nous, on allait soit à la messe, soit à l'église, soit promener. Et voilà, c'était entre eux deux. Je suppose que papa se libérait un petit peu comme ça et racontait ce qui s'était passé. Ils devaient beaucoup au père André et ils sont restés amis jusqu'à la mort. Le père André, c'était fort secret aussi, parce qu'il aidait à sauver les prisonniers, les résistants, il cachait les résistants. À l'abbaye de Maretsu, c'était lui qui supervisait. Il a fait beaucoup, mais beaucoup, je ne sais pas. C'était entre eux.
Et votre papa, pendant la guerre, il est resté à l'abbaye aussi pendant un moment ?
Non, il se cachait, papa, parce qu'il était résistant actif. Il faisait sauter les ponts, les trains, tout ce qu'il fallait pour faire reculer les Allemands et pour les embêter. Donc il se cachait dans les bois. Et il y avait un code, mais je ne sais pas quel code, avec ma maman et ma grand-mère pour dire que les Allemands étaient soit à la maison, soit qu'ils cherchaient après mon papa. Ils devaient encore mieux se cacher, attendre un petit peu avant de faire un nouvel exploit. Mais ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient plusieurs. Mais papa n'a jamais donné de nom. C'est comme ça que j'ai jamais retrouvé. Oui, j'ai retrouvé une personne. La personne qui a peint, là, c'était aussi un grand ami à papa. C'était, je ne sais plus son nom, mais il avait une scierie à Hermeton-sur-Bière. Et quand on allait voir le père André à Maretsu, on repassait toujours chez son ami à Hermeton-sur-Bière. Et cet ami est décédé aussi depuis longtemps, papa aussi, père André aussi. Tout le monde est décédé. Au moment où on aurait pu poser des questions, eux, ils étaient déjà âgés et passaient à autre chose pour leurs enfants, pour le futur. Et c'est quand ils étaient peut-être eux deux ou eux trois, mais devant nous, on savait qu'il y avait des choses qui s'étaient passées très 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 importantes pour mettre en rage les Allemands de cette façon. Ils étaient en rage, ils étaient prêts à tuer pour mettre une baïonnette comme ça sur un bébé dans un berceau pour faire parler maman. Maman, a eu du courage aussi. Et ils étaient bien tombés tous les deux. C'était débattant. Ah oui, débattant.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Les sacrifices que nos parents ont fait pour nous, leur courage, leur héroïsme et patriotes. Parce que papa a donné 5 ans de sa vie pour la patrie. Ce que je voudrais que les jeunes sachent, c'est que grâce à eux, à leur courage et à leur sacrifice, parce que c'était des grands sacrifices, on est libre, on mange à notre faim, malgré le Covid que tout le monde respecte pour les masques ou qu'on ne peut plus faire la fête, mais qu'on fait quand même la fête. Moi, ça me semble aberrant.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Tout faire pour que ça ne se reproduise plus jamais, plus jamais. Plus de guerre, bon, c'est un peu utopique parce qu'il y a des guerres un peu partout dans le monde, mais on a la chance, on râle beaucoup en France et en Belgique, on râle beaucoup, mais on devrait pouvoir apprécier la chance qu'on a d'être libre et de manger à sa faim, et de pouvoir s'exprimer comme on peut, de chanter, de sortir pour les jeunes, malgré tout. C'est pas la fin du monde, le Covid, c'est très, 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 comment, très dangereux, bien sûr, mais la guerre, et ils comprennent pas. Oui. Je voudrais qu'ils comprennent que, malgré le Covid, ils ont la chance de pouvoir faire des études, les universités sont ouvertes, les écoles, tant bien que mal. Ils ont la chance de pouvoir étudier, de manger, d'avoir des copains, d'avoir une vie joyeuse quand même, malgré tout. Ils doivent rester optimistes parce que c'est ça qui nous sortira de tout ça. Il faut bien sûr être vigilant, prudent, mais rester optimiste. Qu'on n'entende plus des histoires comme ça, qu'on n'entende plus ça. C'est vrai qu'il y a encore des grandes, grandes misères partout en Afrique et dans le monde, mais ici on a une chance. On a une chance. Qu'ils n'apprécient pas. Et que je voudrais qu'ils apprécient. C'est ça qu'il faut, ils doivent apprécier leur chance.
Et voilà donc pour le témoignage de Madame Philippot qui a énormément souffert de la guerre. C'est assez surprenant alors que, somme toute, elle ne l'a pas connue directement. Mais voilà, on voit que des fois, les non-dits font plus de mal que voilà, la communication au sein des familles. C'était très émouvant en tout cas de la rencontrer. Et ben voilà, si vous aussi vous souhaitez témoigner, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire sur internet via le site www.namurenguerre.be, par email à l'adresse info@namurienc.be, par téléphone au 0474 114 909, ou par courrier à SBL Namur INC, rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur. Je vous dis à la semaine prochaine, et à la semaine prochaine, vous verrez qu'on aura aussi un témoignage très différent de ce qu'on a eu jusqu'ici, parce que c'est la semaine prochaine, on va partir à la rencontre à Wépion d'un ancien soldat allemand, il avait 16 ans quand il était engagé, et qui a été prisonnier chez nous à Wépion, et il a décidé d'y passer le reste de sa vie. Vous verrez que c'est assez curieux comme témoignage, et ça ouvre aussi d'autres perspectives. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je pense que vous allez apprécier. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres.